Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe et en particulier quelle était votre démarche à l'origine?
Alors, donc, Tranq, on est 4, donc guitare, basse, batterie et voix. On s'est rencontrés en 2016, on a commencé en 2016. Avec Michel et Julien d'abord, puis moi, puis David qui est arrivé en 2017. Et le truc c'est qu'on vient tous de milieux un peu différents, que ce soit rock, metal, pop, peu importe. Et il s'est passé quelque chose un petit peu de magique quand on s'est retrouvés tous les quatre à jouer ensemble. On s'entend super bien personnellement et côté musical, bah, en fait. On a des inspirations qui sont très complémentaires. Donc, du coup, on aime bien la musique qu'on fait ensemble.
Si tu en as perche, justement, peut-être essayer de présenter votre musique, pas forcément par des étiquettes qui valent ce qu'elles valent, mais peut-être par les influences communes qui sont communes à l'ensemble des membres du groupe.
En fait,
attention.
En fait, le point de départ de tout ce qu'on fait, c'est la mélodie. Quel que soit le style, on essaie de se dire est-ce que ça c'est un truc qui marche. Et après, bah parfois voilà, on va Julien, toi t'es pas mal rock du type Muse, etc. David, le bassiste, est plus classique rock, Guns, Alter Bridge, etc. Michel est très fan de Depeche Mode, de New Wave, toute la musique des années 80. À base de synthé, c'est la raison pour laquelle ils ont pas mal de programmation dans notre musique. Et moi aussi, je suis très varié. Donc en fait, on a pas mal de choses et on essaye de piocher en fait dans nos styles, dans les styles qu'on écoute, de piocher les choses qui peuvent rendre la mélodie, encore une fois, la plus intéressante possible.
Ok, parfait. Dès l'origine, vous avez fait le choix de chanter en anglais. C'était une évidence pour vous ou il y a eu des débats au sein du groupe?
Alors, il n'y a pas eu trop de débats, c'était une évidence pour une raison relativement simple qui est que on avait tous l'impression que l'anglais permet de communiquer des choses potentiellement subtiles de façon beaucoup plus courte. En quelques mots, en général, en anglais on arrive à assez bien faire passer l'idée. La langue française est beaucoup plus riche et beaucoup plus élaborée ou alambiquée, j'ai envie de dire. Et du coup, c'est vrai que quand on fait des chansons, on n'a pas envie que ce soit le monologue. Donc on essaye d'aller vers le plus efficace. Puis d'un autre côté, c'est vrai qu'on a tous grandi avec les groupes anglophones, en tout cas, en référence. Et donc le rock en anglais, ça nous paraissait plus naturel qu'en français. On n'a rien contre le rock français. Mais...
Et vous n'avez pas fait d'essais ou il n'existe pas des versions alternatives de certains de vos titres en français?
Il y a une chanson ouais. Qui n'est même pas un essai ou une version alternative, c'est la chanson qui est en français, qu'on n'a pas encore enregistrée ni jouée en public, qu'on garde pour nos concerts en France. Okay. Mais donc c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Et là, pour le coup, on s'est dit, en fait, par rapport au message de la chanson, ça va mieux en français.
Ok. Donc vous avez sorti en juillet 2016 un premier Extend and Play. Et après vous avez fait le choix de sortir des singles avant l'album. Alors finalement, depuis 2016, qu'est-ce qui s'est un peu passé dans le groupe? Et pourquoi, deuxième partie de la question, pourquoi avoir fait le choix de sortir des singles avant d'aller de tête être silencieux plus longtemps et arriver tout de suite à l'album?
L'idée c'est... Parce que de faire un album, en tout cas cet album-là, nous a demandé du temps. On a demandé pas mal de temps, parce que alors on souhaite faire les choses vraiment dans tous les détails, faire les choses proprement. Mais en gros, ce qui s'est passé, c'est que si on apparaît une fois et après on disparaît et on réapparaît que très longtemps après, finalement, maintenant pour pouvoir gagner du public, il faut être présent constamment. Donc ce qui est, c'est que si on apparaît qu'une fois et après on disparaît aux yeux des gens et pourra réapparaître derrière, limite ils vont se demander est-ce que c'est pas un best-of ou un truc comme ça qui va sortir. Donc l'idée c'était vraiment en tout cas de pouvoir garder cette dynamique auprès du public et puis continuer de parler de nous, de parler du groupe pour continuer cette promotion.
D'accord. Non, ça se comprend. Mais quand même avec la volonté de faire un album, il y a certains d'autres groupes qu'on a pu interviewer qui étaient justement dans cette philosophie-là et qui disaient finalement est-ce que c'est un album à l'intérêt et ils étaient plutôt sortis dans la stratégie de sortir des EP beaucoup plus régulièrement. Vous, quand même, l'objet album, 10 titres, enfin une dizaine de titres, un bloc, vous intéresse quand même?
En fait, on est là-dessus, on est c'est un côté beaucoup plus émotionnel que business. C'est-à-dire, on se dit quand même d'avoir un album complet qu'on peut écouter, où on voit les dynamiques dans la musique. On essaye à chaque fois, au sein de chaque chanson et entre les chansons, de faire évoluer les dynamiques. On se dit, c'est quand même un truc, nous, en tant qu'auditeurs, qu'on apprécie énormément. Donc, on l'a fait. C'est probablement pas la meilleure. Le meilleur raisonnement d'un point de vue développement du projet, mais en tout cas nous ça signifie quelque chose d'avoir un vrai album. Après ça veut pas dire qu'on va pas continuer à sortir des singles régulièrement, mais l'objectif c'est d'avoir toujours une œuvre, on va dire, qui est sur un support physique. On est en train de travailler sur la partie vinyle de l'album pour justement qu'il y ait ce côté il y a quand même une magie avec un support physique plutôt que d'avoir une ligne sur un écran d'ordinateur.
Quelque chose qui disparaît, c'est vraiment numérique, c'est vraiment.
Donc, là aussi, dans la même veine, vous n'avez pas pris le parti de dire on sort que sur les sites de streaming ou les plateformes, on veut un objet physique.
Ouais.
D'ailleurs, vous avez soigné, parce que le digipack est sympa.
Merci beaucoup.
Aussi bien au niveau visuel que touché, entre guillemets. Enfin, et en plus, il y a la version vinyle, ça a souvent plus un coût qu'un avantage pour vous. Mais bon, moi, il y a l'objet entre les mains.
Ouais, et puis c'est vraiment ça. Pour les gens qui sont... on va pas en vendre des millions, mais les gens qui sont... enfin,
si,
ça me dérangerait pas, mais le côté physique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi, pour les gens qui vont faire l'effort de l'acheter, alors qu'il y a de moins en moins de gens qui ont une platine CD pour commencer, mais les gens qui vont faire l'effort de l'acheter, ben, ils auront quelque chose, voilà, qui... Et c'est pour ça aussi qu'on a essayé de le faire beau. C'est un truc sympa à regarder, plutôt que d'avoir... le jour où l'ordi plante, ça y est, on a perdu tous ces MP3 ou ces trucs, c'est un peu...
Et puis moi, je fais toujours la réflexion, dans un siècle, qu'est-ce qu'il restera de la musique de 2020.
Exactement.
Les mecs sont tout numérisés.
Exactement.
Par définition, il y a des formats qui changent tous les 10 ans, ouais. Parce que pour tout racheter son matériel.
Ouais.
Bon, mais,
on est d'accord.
Après, un CD dans un siècle, il ne vaut plus rien non plus, enfin, on ne saura plus rien en faire, mais bon.
Ouais.
Et finalement, si on regarde dans le passé, ce qui restait, c'était les tablatures, enfin les qui permettent de savoir ce que le mec au 15e siècle jouait, quoi.
Ouais, exactement, les partitions.
Finalement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire en général les sessions d'enregistrement de Ropes, là aussi en deux aspects, est-ce que vous avez changé les choses par rapport à l'enregistrement de l'EP, sachant que vous avez été entouré un peu, j'ai l'impression, de la même équipe, principalement avec Yvan, et puis enregistrement entre France et Suisse.
En fait, sur la partie enregistrement, on a enregistré un peu de la même façon que l'EP, c'est-à-dire sur des consoles analo, des grosses consoles Neve, etc. Donc, et c'était voulu, c'était pour avoir cette espèce de ce son chaleureux. Yvan est hyper fort dans tout ce qui est ce genre, pour piloter les séances d'enregistrement, pour avoir un truc qui soit vraiment nickel. Donc tout ça s'est bien fait. Après, entre la France et la Suisse, parce que les séances d'enregistrement, notamment des batteries, se sont pas faites tout en même temps, donc il y avait des questions de disponibilité des studios. Mais on va dire que ça s'est fait un peu old school, en studio, avec des vrais micros, pas sur un ordi à programmer des trucs, on a joué tous. Et après, par contre, ce qui a changé sur l'album par rapport à l'EP, c'est le mix. On a travaillé avec Brian Robbins, qui est l'ingénieur du son, qui a fait le mix de l'album de Bring Me the Horizon, de Asking Alexandria, etc. Et on est allé volontairement vers lui parce qu'on s'est dit, c'est lui qui peut nous donner le gros son qu'on voulait, tout en gardant la texture qu'on avait dans la texture de notre jeu et qu'on avait essayé de refléter dans l'enregistrement. Donc c'était d'avoir cette combinaison de richesse et de texture à l'enregistrement et de puissance dans le mix.
D'accord, et donc vous disiez le fait d'avoir enregistré les instruments pas au même endroit, parce qu'après ça ressemble c'est du collage des différentes pistes.
Ouais.
Ça pose pas, dans la technique actuelle, même en analogique, ça pose pas de difficulté dans le mix.
Non. En fait, ce qu'il y a, c'est surtout que pour la batterie, moi, je suis le batteur du groupe, donc la batterie, l'acoustique de la pièce joue beaucoup, etc. Donc ça. On a choisi aussi les studios en fonction de l'ambiance qu'on voulait avoir pour chaque morceau. Mais une fois que la batterie est faite, après toutes les guitares, toutes les basses et toutes les voix ont été faites au même endroit avec Yvan. Donc au final, tout était cohérent. C'est juste en fait l'atmosphère, l'ambiance qu'on voulait avoir sur la batterie qui allait influencer le son des autres instruments, qui fait qu'après on avait des atmosphères différentes. Mais au final, ça reste très cohérent avec les technologies aujourd'hui. On peut enregistrer par où on veut.
Tu dans le showkick ou...
Ouais.
D'accord. Et en général, la question s'adresse à tous les deux, combien d'essais pour la piste finale, c'est-à-dire...
Sur l'EP, en général, sur la batterie, j'ai fait entre 2 et 3 prises. Après sur l'album, comme on voulait avoir un truc, il y avait plus d'électronique sur cet album là, donc il fallait vraiment que ce soit parfaitement dans les temps. Sur là, on va dire que c'était entre 4 et 6 prises au global pour avoir vraiment quelque chose qui nous allait.
Pour la guitare, après c'est beaucoup plus compliqué parce que au final la guitare, il n'y a pas, on va dire, une seule piste de guitare, c'est, ouais. Il y a plusieurs tranches de guitare. C'est-à-dire, il y a la principale mais qui doit être gauche-droite. Donc déjà la gauche-droite, il faut que les deux parties soient exactement jouées pareil avec les mêmes attaques. Après il va y avoir donc les petites notes aussi qui viennent se rajouter derrière, enfin à chaque fois des petits compléments. Et alors là, ça peut être limite, ouais, il faut combien de prix, je sais pas, limite une demi-journée, voire une journée par titre.
Voilà, pas parce qu'on fait la même prise 50 fois, mais parce qu'il y a 50.
Parce que voilà, il y a effectivement plusieurs guitares.
Et sur ta prise de batterie, toutes les prises de batterie qui apparaissent sont une prise en un bloc, c'est où il y a du copier-coller dans la même prise.
En général, on essaye de prendre la meilleure piste de base, et après s'il y a des petits trucs on se dit là c'est pas terrible, on va potentiellement piocher dans une prise alternative, mais ça reste 90% d'une, enfin j'enregistre les pistes complètement.
Si on essaye d'assembler tous ces petits morceaux des différents, le chant, les guitares, etc., la basse, la batterie, ça représente quelle période environ? C'est quelques semaines?
Alors moi, toutes les batteries en cumulé, je pense que ça a dû prendre une semaine. Après, le problème, c'est que tout ça, ça dépendait aussi des disponibilités de main d'œuvre. Donc ça s'est fait sur une longue période, mais
toi, je pour toi, vous, ça fait pareil.
Ouais,
mais une semaine complète, hein, faut bien compter, ouais, 7-8 jours.
D'accord. Et quel était votre niveau de préparation quand vous êtes en studio? Tout était calé au moindre, ou alors vous êtes laissé une espèce d'espace de liberté? Soit sur un solo, soit sur un rythme particulier.
En fait, c'est vrai que, en tout cas pour les parties guitare, donc moi j'ai mes idées très précises pour faire telle ou telle chose, et donc c'est Yvan, donc Yvan Baron, avec qui donc on a enregistré, qui des fois donc on dit on spot, il me dit il faudrait peut-être qu'on cherche peut-être à alléger peut-être cette partie-là, donc à revoir un petit peu, on va dire, les attaques pour avoir quelque chose de plus fluide, parce que il a l'oreille justement pour se dire là ça va aider là-dessus, genre plutôt que bourriner en tout cas sur un accord, laisser l'accord, ce sera beaucoup plus lisible en tout cas après au niveau de l'écoute. Donc c'est des choses effectivement qu'on a dû réadapter, et ça c'est pas toujours évident en tout cas, parce que de devoir retravailler quelque chose, et puis des fois il me disait repense cette intro, on va pas l'enregistrer là, repense cette intro, et quand tu reviens là, en tout cas, on pourra retravailler cette intro là.
D'accord, finalement, il y a, entre guillemets, le produit brut qui est arrivé et le produit qui est défini, il y a eu des...
Il y a des modifications, oui.
Mais on va dire qu'on passe beaucoup de temps sur la partie pré-prod, on fait des démos finalisées, pour bosser vraiment les arrangements dans le détail, toutes les séquences que Michel fait, etc., pour avoir vraiment un truc qui nous satisfasse au global. Et après, donc c'est ce qu'on rentre en studio pour jouer. Après, on reste ouvert à des petites suggestions à droite à gauche. On va dire 90% du morceau est défini avant qu'on rentre en studio.
Ok. Combien de tout ce qui a été enregistré est sur le disque, ou vous aviez plus de titres et vous avez à un moment ou à un autre fait un choix?
Alors, on n'avait pas. Il y a deux titres sur lesquels on a enregistré les batteries, mais on n'a pas enregistré le reste, donc ça viendra après. Mais simplement parce que on pensait, au moment de faire les batteries, on pensait que l'arrangement était final, puis en fait, une fois qu'on a fait les batteries, on s'est dit, il y a peut-être des choses à changer, donc on les a pas mises sur l'album. Mais en général, on rentre en studio quand on se dit, voilà, là on a... Bah, dans ce cas-là, 12 chansons qui nous conviennent, ce sera l'album, donc on fait comme ça. On ne va pas enregistrer 20 morceaux pour en choisir 12.
D'accord. Et autre élément qui peut paraître de la cuisine interne, mais qui parfois est assez intéressant et génère des débats, c'est est-ce que le choix du track listing a été naturel ou a généré justement des.
Ça a eu des versions, là, il y a eu
beaucoup de débats.
Beaucoup de débats, ouais.
Simplement parce que ce qu'on essaye de faire dans chaque chanson, c'est d'avoir voilà, des dynamiques différentes, plus énergiques, plus calmes, etc. Mais aussi, pour les gens qui écoutent encore un album de A à Z, pour ne pas fatiguer l'auditeur, d'une part, et pour faire évoluer au fil d'une histoire, raconter une histoire. C'est pas un concept album, mais pour raconter une histoire, faire évoluer les émotions au fil de l'album. Donc c'est vrai que de se dire, ben voilà, Le son tranque, c'est plutôt ces morceaux-là, donc c'est bien de commencer par ça, mais après derrière, bah, au bout de 3-4 morceaux, c'est bien que l'auditeur puisse se reposer un petit peu les oreilles. Donc c'est pour ça qu'on a, on a eu pas mal de débats là-dessus.
D'accord, mais donc ça veut dire que dans, quand vous êtes en répète ou en phase de composition, ça fait partie de la réflexion que vous menez. Donc bon, là, on vient de faire, bien finaliser quelques titres, mais ils sont assez
rentre dedans,
donc là, c'est besoin d'un moment d'une pause, d'un repos.
Ouais.
D'accord.
Et c'est peut-être
le moyen aussi de vous préciser un peu quel, si votre process de création de titre.
En fait, c'est assez marrant parce que Michel, David et Julien composent tous les trois. Moi, j'ai essayé, mais c'était pas une bonne idée. Mais en même temps, surtout, je suis batteur, on va pas non plus s'emballer. Mais en fait, donc chacun apporte des suggestions comme ça, et puis on en discute tous ensemble, et on se dit, voilà, quelles sont celles qui ont le plus de potentiel. Donc au départ, c'est pas, on se dit pas, il faut écrire une balade ou il faut écrire tel truc. Mais comme il y a pas mal de choses qui arrivent régulièrement, après, on se dit, ok, dans toutes celles qu'on a, quelles sont celles qui vont être dans un style qui va bien aller avec ce qu'on a déjà. Donc c'est voilà, on fait pas sur commande. Alors ça nous arrive de temps en temps de dire, non là c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir une chanson un peu dans ce style-là. Mais dans l'ensemble, on commence par la mélodie. Est-ce que cette chanson fonctionne? Et après, on voit comment on peut créer de la diversité.
Et donc toi, par exemple, la guitare, tu pas dans ton téléphone, t'as un truc avec 200 idées, un riff, un machin, deux notes qui s'enchaînent. Ah voilà, ou des mélodies tu...
Alors ouais, il y a effectivement ça, donc soit en gros c'est... moi ça va se passer souvent au déclic. Ça va vraiment y avoir une histoire de déclic où... donc je prends la guitare, hop, je suis en train d'enregistrer sur le Mac et je commence donc à mettre différentes choses, puis je fais mes propositions. Mais des fois ce qui va se passer c'est... J'imagine un air et je vais me le mettre à le siffloter effectivement donc dans le téléphone ou alors l'enregistrer, mais en son, enfin il n'y a pas de disto, il n'y a rien du tout, juste ça, effectivement je vais le mettre. Ou même, des fois je vais aller, hop, c'est la nuit, je vais me coucher, et là le truc c'est que j'ai l'idée qui sort comme ça. Et là je me dis, bon bah, maintenant il faut directement que j'aille l'enregistrer. Donc effectivement, il y a plein de choses qui se mettent, et puis après ce que je fais c'est que je fais quand même un filtre sur les choses de ok, bon bah ça je présente
parce que la nuit c'est un peu casse-bien, voilà.
Mieux du rester dormir, ouais.
Non parce que bah, c'est vrai qu'il y a l'idée qu'on s'en fait et après l'idée de ce que ça donne quand ça enregistre, mais après dans ce que je fais c'est qu'il y a effectivement il y a un énorme style, et après ce que je fais c'est que je filtre en me disant bon bah, ça est-ce que je le présente au gars ou est-ce que et puis après on en discute.
Ah bon, c'est jamais moi j'ai toujours été impressionné, j'ai fait une interview de Richard Barbieri, le clavier de Porcupine Tree, qui tout d'un coup lui a été à Charles de Gaulle et il attendait son avion, et le petite musique jingle qui annonce les vols, je sais pas pourquoi la cité, ouais. il en a fait un titre après avec les 3-4 notes, donc des fois on dit la SNCF.
Merci.
Mais on peut générer les... Ah, moi, c'est avec les chants d'oiseaux, par contre. Les chants d'oiseaux, ça m'inspire.
Moi, j'adore Porcupine Tree, donc je...
Mais il a fait un disque solo où, effectivement, il a
l'impression d'être à l'aéroport.
Il y a les 3-4 notes, c'est bien, ça après, il en a très bien, mais il y a un peu ce côté-là. Donc, à côté de la musique, il y a la partie visuelle. Comment vous avez travaillé la pochette? J'ai cru lire qu'il y a un personnage important dans tous vos visuels qui s'appelle Alban Vernerey.
Ouais.
Tout à fait.
Qui est, donc Alban Vernerey, donc qui a réalisé la totalité, qui a réalisé en tout cas nos derniers clips, okay. qui est là-dessus. Et ce qui est incroyable donc avec Alban, c'est que ce soit l'idée, que ce soit le storyboard, la réalisation, le montage. Il a surtout là-dessus. Et ce qui est impressionnant avec lui, c'est que donc, quand il vient, parce que donc il écoute les titres, puis il se dit, ah tiens, cette chanson-là, en tout cas, a vraiment quelque chose. Et donc bah, après, l'idée, c'est de discuter sur la partie effectivement donc conceptuelle. Mais il arrive avec une idée qui est déjà incroyable. Et ce qui est impressionnant, c'est entre la partie création, entre ce qu'il nous montre avec storyboard, avec même des effets 3D, des montages 3D, et le résultat, en fait, c'est ça colle complètement. Donc ce ne sont pas que des promesses, c'est voici l'idée que j'en ai, et voilà ce que je vous propose aussi en produit final, et c'est complètement ça.
Bon, on n'a toujours pas compris comment il faisait. Hein,
c'est incroyable.
Il y a 2 ans, on a tourné 3 clips avec lui en 2 jours et demi, et les 3 clips, il nous a envoyé les clips montés 72 heures après, sachant que c'était les fêtes, donc il n'était pas dispo vraiment. Exactement. Et en parallèle, donc c'est lui qui se charge de tous les éléments visuels, donc la pochette de l'album, etc. On se met d'accord sur le concept, mais c'est lui qui fait ça. C'est vrai que c'est vraiment le cinquième membre du groupe
à voir les visuels et les clips, etc., on se dit qu'il y a deux kinks au sein du groupe. Il y a les mannequins et le bondage. Vous voulez en parler ou ça reste au sein du groupe?
En fait, c'est intéressant parce que c'est une discussion qu'on a
eue. Donc là, on est sur les hobbies.
C'est la vie privée, alors vous me fermez la question. Mais...
Non, alors en fait, les trois clips en question, les trois clips qui sont sortis là récemment, effectivement. Ils ont été tournés en deux jours et demi. Avec l'idée, c'est qu'ils étaient vus comme un triptyque. C'est une... les chansons n'avaient rien à voir les unes avec les autres, mais une fois qu'on s'est dit on va clipper ces trois chansons-là, on s'est dit mais en fait il y a un concept qui peut être cohérent entre les trois.
Les trois triptyques, c'est quoi? Undress, Take the Money.
Trouble
Time et Benz.
Et Benz, c'est ça. Voilà. C'est trois.
Take the Money and Run, il est avant.
Take the Money, il a été fait il y a trois ans sur un. Voilà, exactement. Mais donc ces trois-là ont été vraiment vus comme un triptyque, une même histoire qui est vue de différents points de vue. Enfin, une histoire qui évolue avec différents points de vue. Après, il se trouve que c'est que même avec le nouveau clip qui va sortir, qui parle effectivement, qui visualise en tout cas du shibari, donc du bondage japonais, de façon très artistique et visuelle, pas du tout comme on peut s'imaginer ce genre de choses. Mais l'idée, c'est qu'il y a quand même pas mal de chansons qui parlent d'une forme de domination, de rapport dominant-dominé, que ce soit vis-à-vis de la religion, comme c'est In Troubled Times. Que ce soit vis-à-vis des relations humaines comme Bend or Break, que ce soit, ou même The Ropes, c'est aussi la même chose. Il y a, d'une façon ou d'une autre, il y a un rapport de force. Et donc c'est pour ça qu'on a gravité vers ce milieu-là. C'est pas parce qu'on s'est dit, voilà, ça c'est l'identité du groupe, c'est plutôt parce qu'on s'est dit c'est une bonne façon de visualiser ce dont parlent les chansons.
D'accord. A posteriori, vous gardez un bon souvenir de ces clips, parce que les clips, c'est pendant une journée souvent qui commence tôt le matin et qui finit tard le soir, se refait 250 fois le même truc. Donc il y a un côté, on est heureux du produit final, mais en même temps, ça a été une galère. Enfin, il a fallu passer. Voilà, quel souvenir vous gardez a posteriori?
Déjà. Alors oui, ouais. Alors non, mais déjà le fait de travailler avec Alban, il travaille très vite, donc. On ne refait pas la même prise 50 fois, c'est une, deux, et c'est tout. Et en fait, lui, il voit exactement, tiens, bah, sur cette partie-là, je vais prendre ce segment-là. Donc, il monte dans sa tête avant de le faire. Il sait ce qu'il a shooté, donc voilà. Donc, c'est pas du tout pénible ou rébarbatif de faire ça. Et nous, quand on voit le résultat final, on est toujours hyper content parce que, voilà, c'est, comme disait Julien, c'est exactement ce qu'il nous avait montré. Je dirais, non, c'est nettement mieux que ce qu'il nous avait proposé au départ. Donc nous, sur l'expérience, l'efficacité, ça veut dire qu'il faut qu'on soit tous, faut qu'on fasse tout ce qu'on doit faire, mais l'efficacité et puis le résultat final, bien évidemment qu'on est très content.
Voilà. Et vous évitez que vous soyez sur la pluie, les effets de la pluie quand tu frappes,
là, c'est sympa, mais en slow motion. C'est ça.
Super. Donc, une de vos actualités aussi de 2019, c'était des premières parties de groupes prestigieux. Donc, vous pourrez citer au moins Deep Purple, Anthrax, Papa Roach et Disturbed. En Europe centrale de l'Est, Ukraine, Roumanie, de mémoire.
Ouais, Ukraine, Roumanie, Lettonie, Lituanie. Ouais.
Alors, on se dit toujours, quel souvenir vous en gardez, et deux, comment un petit groupe, et sans être pas péjoratif du tout, arrive à décrocher ce genre de truc? Enfin, faut coucher avec qui ou faut payer qui?
Alors on a beaucoup essayé de coucher, mais ça n'a pas marché.
Parce que le bondage et les...
Voilà, d'où le bondage. Donc ça c'est pas de bol, mais...
On est sur quoi? Sur les souvenirs? On commence par les souvenirs?
Un souvenir.
Non, pas sur les souvenirs. Alors, le gros souvenir, il y a des super souvenirs dans chacun, mais on va dire celui qui est resté quand même le plus impressionnant, c'est quand on a ouvert pour Deep Purple. Pourquoi? Parce que, déjà, Deep Purple, et puis une aréna de 15 000 personnes, et donc...
C'est peut-être le groupe stylistique qui est le plus proche de vous. Les autres, vous pouvez un peu vous énerver et être assez proche d'eux, mais ouais. Les vraiment stylistiquement parlant, vous êtes totalement deep, quoi. Enfin, très, très proche d'eux.
Ouais. Et ouais, au point qu'ils ont fait ce communiqué de presse absolument
qui était juste avant le fait qu'on allait jouer.
Ouais, oui, nous ils ont dit si Deep Purple avait commencé au 21e siècle, on aurait sonné comme Trank. Et voilà, je te laisse deviner notre réaction quand on a lu ça. Ils sont pas obligés, hein, ils ont tout fait, donc et c'est vrai que ça forcément on était hyper flatté et ému et honoré.
C'était quel quelle taille de salle, quel type de plus de
15 000 personnes, ouais, 15 000, c'est une arène.
C'est une arène. Ah, c'est un stade, quoi. Ouais. Un gros match.
Ouais, ouais. Ouais. C'est, bah, c'est un gros blocos. C'est un gros blocos. De l'extérieur, on s'est dit, ah, ça a l'air grand. De l'intérieur, on s'est dit, ah non, c'est vraiment très grand. Donc,
est-ce que, enfin, c'est de la question étudiante, mais 10 minutes avant, on ouvre un peu le rideau, on voit la vache à 15 000 personnes, et il y a un coup, vous avez un coup de stress ou pas?
Enfin, bien évidemment.
On fait la drogue et l'alcool.
Alors non, parce que ni l'un ni l'autre d'ailleurs, ni chez.
On aurait quand même mettre dans le rider ça d'ailleurs.
Voilà. Non, mais en fait, on a. C'est très marrant parce que c'était aussi un gros test pour nous, parce qu'on ne fait pas des scènes comme ça tous les jours. Et c'était la première fois qu'on faisait une scène pareille. Et on s'est dit, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que le stress va devenir négatif? Enfin, ou en tout cas nous empêcher de faire une bonne performance. Mm-hmm. Et en fait, non, c'est devenu une motivation exceptionnelle. Ce qui nous a un peu rassurés. Ça fait du bien de voir ça. Mais c'est vrai que même avant 10 minutes, avant de derrière les rideaux, quand on est monté sur scène, l'ingénieur lumière n'avait pas vu qu'on montait sur scène, donc il avait gardé tous les gradins éclairés. Donc quand on monte sur scène, on jette un œil et très rapidement on détourne la tête parce que sinon on nous dit. Mais donc, non, ça calme, hein, ça fait. Mais ça nous a, voilà, on a vraiment eu à cœur de faire la meilleure prestation possible. Déjà pour. Honorer le fait qu'un groupe comme ça ait accepté de nous prendre. Et puis eux étaient absolument adorables humainement. Enfin, j'ai jamais vu ça, je ne me serais jamais attendu. Ils sont venus nous voir pendant le concert, avant, après, à discuter de toute façon très simple. C'est Deep Purple, c'est pas.
Oui, c'est pas le groupe du coin. Ouais.
Non, mais qu'ils soient encore capables de faire ça après 50 ans de carrière, enfin, c'est un très beau modèle. Et puis après, donc, pour ta deuxième question sur comment on arrive à avoir ce truc-là, en fait, on s'est fait rendu compte qu'en Europe, notamment l'Europe de l'Est, c'est un grand marché pour le rock en général, peut-être plus qu'en France ou dans d'autres pays, mais et souvent les gros groupes venaient, faisaient des tournées, mais ils avaient un groupe attitré de première partie, mais qui ne faisait pas tous les concerts. Donc on s'est dit, notamment dans ces pays d'Europe de l'Est, donc on s'est dit, ben, il y a peut-être des créneaux à prendre.
On est prêt à voyager en Ukraine du Sud, voilà.
Ouais, bien sûr. Voilà, parce que ben, c'est quand même de jouer avec des groupes légendaires. Donc. Et donc on a approché les managements et surtout certains promoteurs dont on a vu qu'ils faisaient qu'ils organisaient ce genre de concert. Et puis l'un d'entre eux a flashé sur notre musique, il a dit, mais voilà, le truc, je trouve ça très bien. Il nous a proposé d'ouvrir pour les Prophets of Rage. Qui était déjà, on s'est dit, ah, ok, d'accord. Il a envoyé le truc, notre disque, au management des Prophets, qui a dit oui, donc là, on était tous sur la lune. Et puis en fait, ils ont, sur leur tournée européenne, ils ont annulé deux concerts, c'est les deux qu'on devait faire avec eux, pas de bol. Mais donc, on avait tous forcément un peu, on était dégoûtés, mais le promoteur s'est dit, moi, je pense que vous avez vraiment un truc bien, je vais regarder ce que je peux vous proposer d'autre, et un mois après, il nous dit, si vous voulez, j'ai dit Purple. Et donc il nous a dit, moi j'ai ça, je vais demander au management, enfin, je vais envoyer votre truc au management, on va voir. Et puis un mois après ils nous ont dit oui, alors là, bon, forcément. Donc c'était vraiment, je pense, le fait d'avoir fait la démarche, de se dire, bon, on va peut-être regarder en dehors de la France, il y a peut-être des opportunités. Et puis après la musique, heureusement, a fait aussi le boulot. Et après, une fois qu'on a fait Deep Purple, c'est le même promoteur qui nous a proposé les autres premières parties, parce qu'il avait eu de très bons échos sur la réaction du public, mais aussi le professionnalisme du groupe, sur on était là à l'heure, on faisait notre truc, on était carré.
Voilà, on avait laissé le bug dans une nickel.
Voilà, mais même en fait, sur d'un point de vue timing, ouais. On a une heure de balance, c'est pas 1h05.
Oui,
on a un set de 45 minutes, c'est pas 48.
Oui, c'est ça.
Donc d'avoir un truc comme ça, ils se sont dit bon.
Ils sont pros, ouais. Ils savent le top, ok. Et là aussi, donc sur les autres groupes, ils sont un peu plus énervés. Là aussi, bon échange avec le public, il n'y a pas eu de. On dit des fois les fous furieux d'Anthrax, ouais. De Paroche.
Alors, je dois dire, pour Anthrax, à Moscou, le russe est rugueux.
S'il est imbibé, on peut au parcours.
Voilà, ce qui est, j'ai envie de vous dire, il y a à 15h30, quand on est arrivé à la salle.
En première partie, ça va encore.
Ouais, même si. Non, mais à 15h30, on avait déjà qui attendaient dehors. Il neigeait, il faisait moins 8, ouais. Et ils étaient en pull. Hein,
la vodka, ça raconte.
Exactement.
J'ai fait à la maison, après, c'est
en fait. Voilà. Mais en fait, et là, on s'est dit, Anthrax, c'est quand même un public.
T'as des choses,
faut que ça tape. Et Anthrax, en Russie, faut que ça tape. Le premier morceau, les gens se disaient qu'est-ce que c'est que ce truc. Deuxième morceau, ils disent bah, en fait c'est pas mal. Et puis troisième morceau, super bonne réaction. Le reste du concert s'est super bien passé. Mais c'est vrai que on s'est dit, est-ce qu'on va nous.
Je veux dire, à la fin du premier morceau, il y a soit ça se passe bien, soit on va se prendre les.
Ouais. Et je suis très.
C'est de tranchant.
Je suis ravi que qu'on ait que maintenant dans les concerts, les gens puissent plus avoir de bouteilles en verre dans les concerts parce que ça peut être dangereux. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai qu'on n'était pas complètement sûr. Mais le management d'Anthrax nous avait dit avant le concert. Il nous avait dit, votre musique c'est pas du métal, mais je pense que les fans de métal pourront aimer.
Ah, donc l'avantage, c'est que vraiment tous les fans de métal ils sont venus par un rock qui ressemble plus au vôtre. Ouais. Une espèce de montée du rock à monter en montée intensité, on a jusqu'au métal.
Ouais.
Souvent on est passé par des groupes qui ressemblent musicalement. Quoi.
Et, voilà. Et puis au final, comme on disait tout à l'heure, la mélodie, étant donné que c'est la priorité numéro 1, si la mélodie est bonne, à un moment donné, sauf si les gens sont vraiment très.
Claquant Slayer quoi.
Bah là, ça a l'air un peu compromis là en ce moment.
Ouais. Et juste une dernière question, parce qu'on va arriver au bout du temps. Ouais. Vous sortez en autoproduction.
Ouais.
Est-ce que c'est un choix subi ou une volonté subie?
C'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'on a tous à cœur de garder, notamment la partie créative et production, de faire ce qu'on veut. Et d'un autre côté, c'est vrai que les choses se sont accélérées assez rapidement et on s'est dit finalement il y a pas mal de choses qu'on peut faire nous-mêmes et qu'on fait nous-mêmes. Donc c'est pas mal en fait de garder cette liberté, de pas avoir de contraintes, il faut sortir tel album à tel moment, il faut que ça sonne comme ci, comme ça. D'un autre côté, c'est vrai que on reste ouvert, il y a différents types de management, il y en a qu'on apprécie et qu'on subit. Donc on verra de quoi la suite sera faite, mais en tout cas. Pour l'instant, cette espèce de liberté, c'est beaucoup de boulot, donc c'est lourd aussi, mais d'un autre côté, on se dit, c'est lourd.
Et toute dernière chose, qu'est-ce qui arrive là pour vous dans les semaines ou mois qui viennent?
Donc là, on a prévu donc le 7 novembre
la
CCO, la release, donc en tout cas la release partie. Et donc le 7 novembre, donc samedi 7 novembre. Et donc on va pouvoir partager justement le set avec Perséide
et Stéréotypes du Cold Working Class qui sont deux groupes lyonnais qui tournent bien, donc on est très contents.
Donc c'est
Et une volonté de tourner ensuite ou
volonté oui. Projet concret, pas encore. On verra. Comme tout le monde,
mais vous seriez dans l'idée, par exemple, de vous viser, les festivals l'année prochaine, sinon.
Donc, la difficulté, c'est que la plupart des festivals l'année prochaine vont reprendre le line-up de 2020 qui n'a pas pu se passer. Donc, est-ce qu'il y a encore des disponibilités, on verra. Mais en tout cas, c'est clair que on serait hyper content de faire. On avait quelques plans pour cet été, mais comme tout le monde.
Parfait. Merci beaucoup.
Merci à ça.
Merci.